Dans son rapport de 2023, la Commission nationale consultative des droits de l'homme constate que le nombre de faits recensés à caractère raciste, antisémite et xénophobe se maintient à un niveau élevé, et que le niveau de tolérance baisse dans un contexte que la Commission relie notamment à, je cite, « la diffusion d'un discours haineux dans certaines sphères politiques et médiatiques ». Ces discours, notamment entourant la question de l'immigration, font preuve d'un racisme de plus en plus décomplexé et sont régulièrement condamnés par la justice. En contre-pied, les analyses et mobilisations antiracistes se multiplient tant dans l'opinion publique, comme à la mort de George Floyd en 2020 aux États-Unis, ou à celle de Naël en 2023 en France. De même, dans les sciences sociales, le sujet est pris de front par la popularisation de concepts comme la racisation, qui sont parfois mal compris et peuvent heurter. L'école n'étant pas fermée au monde, nous observons que cette question interroge de plus en plus les élèves comme les agents de l'éducation. Mais quelle est la nature de cette interrogation ? Devons-nous nous demander si l'institution elle-même produit des discriminations racistes alors qu'elle se donne pour mission la lutte contre le racisme ? Peut-on parler du racisme uniquement comme un élément exogène qui viendrait du monde du travail et des familles des élèves ? Et puis, comment aborder le racisme avec les élèves ? De quoi parle-t-on exactement ? D'une idéologie ? De préjugés ? Ou bien de pratiques et de rapports sociaux ? Et dans ce cas, contre quoi faut-il lutter ? Pour le savoir, nous avons mené l'enquête.
Enquête d'école, Adeline Outchranger.
Le premier constat est que le racisme n'est pas d'un autre temps.
C'est une question des... Oula, des années 50-60, ça, hein ?
En juin 2025, dans son 35e rapport annuel sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, la CNCDH relève que les enquêtes de victimation estiment qu'1,2 million de personnes de plus de 14 ans déclarent chaque année au moins une atteinte à caractère raciste. Qui plus est, le rapport insiste sur la sous-déclaration liée à, je cite, « la défiance envers les institutions, les difficultés à porter plainte et le faible nombre de condamnations ». Bien que l'école ne soit pas la première institution visée, le jeune âge des personnes concernées par ces statistiques nécessite qu'on se pose la question de ce qui se passe dans les couloirs et dans les classes des établissements scolaires. Ce que révèlent les chercheuses lors d'enquêtes de terrain dans les écoles, c'est qu'il n'y a pas de propos ou d'actes qui relèvent d'un racisme idéologique. Le racisme idéologique est le terme consacré pour désigner l'idéologie, puisqu'elle ne repose sur aucun fondement scientifique, selon laquelle il existerait des races biologiques et qui établit une hiérarchie entre ces races. C'est par exemple l'idéologie nazie de la race aryenne qui serait biologiquement supérieure. Ni les élèves étudiés dans le livre « Du racisme et des jeunes » d'Aurélien Aramini, ni les professeurs entendus dans l'enquête de Laura Foy n'adhèrent aux thèses selon lesquelles il y aurait des formes d'humanité dégradées dues au phénotype. Il faut alors faire la distinction entre la race comme concept biologique invalide et le concept de race tel qu'il est employé en sociologie. La sociologue Sarah Mazouz appelle, dans son livre intitulé sobrement « Race », a utilisé le terme au singulier comme désignant un rapport de pouvoir qui structure les relations sociales. Il s'agit alors de montrer que la catégorie raciale existe bien, mais qu'il s'agit d'une construction sociale et historique. Elle n'a de validité que parce qu'elle est efficiente dans le réel. Écoutons-la définir la racialisation.
Et donc, pourquoi on parle de racialisation ? Parce que ce geste de hiérarchisation, il s'appuie sur l'idée d'une origine géographique, culturelle, religieuse parfois, qui va désigner tel ou tel groupe comme étant radicalement autre. C'est ça. Donc il y a une radicale altérité, une infériorité, et puis aussi souvent une menace pour l'intégrité du groupe dominant, une menace morale, une menace physique.
On peut prendre en exemple la racialisation des Juifs tout au long du 19e siècle et au début du 20e, en leur attribuant des caractéristiques physiques soi-disant communes et remarquables. Il ne s'agit donc pas que du poncif de la couleur de peau, mais d'une question d'assignation à une classe sociale hiérarchisée, fondée sur la notion construite de race. En France, les statistiques ethniques sont interdites, ce qui rend difficile la mesure du poids de la discrimination raciale. Nous n'avons que des chiffres sur les familles immigrées et leurs enfants. Mais si on prend ces chiffres, les immigrés représentent 1% des catégories socio-professionnelles supérieures. Et les élèves d'origine maghrébine ont 5 fois plus de chances d'être scolarisés dans un établissement d'éducation prioritaire, comme le soulignent les sociologues Yael Breinbaum et Annick Kiefer.
Ce
Ce qui se dessine alors, c'est l'intrication entre la notion de race et celle de classe sociale. Comment distinguer dès lors, dans les discriminations subies, ce qui relève du racisme et ce qui relève de la classe, laquelle est un facteur déterminant, par exemple, sur les questions d'échec scolaire ou d'orientation subie. On peut s'appuyer notamment sur les enquêtes de victimation, comme le rapport de l'INJEP de 2017, dirigé par la sociologue Prisca Kergoat, qui révèle qu'au moins 15% des élèves en voie professionnelle déclarent avoir subi de la discrimination. L'étude ajoute que ce chiffre est très sûrement sous-évalué, et notamment pour les discriminations racistes, car les élèves peinent à les identifier clairement. Pour les recruteurs, les stéréotypes qu'ils associent à l'origine présumée des jeunes, dont celui qu'il s'agit de jeunes de milieux populaires en raison de leur racisation, les rend réticents à les intégrer aux activités d'entreprise, notamment quand les jeunes sont en contact de la clientèle. Ce sont les stéréotypes de race et de classe intriqués ensemble qui engendrent une discrimination, intentionnelle ou non, sur le recrutement en stage ou contrat d'apprentissage. En parallèle, la sociologue Élodie Druez a enquêté sur les jeunes diplômés d'origine subsaharienne, se demandant si l'appartenance à une classe moyenne, les bonnes notes, puis les diplômes, protégerait des discriminations racistes. Elle montre que les élèves ont 1,5 fois plus de risques de déclarer une expérience de racisme à l'école lorsqu'ils étudient dans des établissements peu mixtes où il y a peu d'enfants d'immigrés. C'est notamment au moment de l'orientation que les différences sont observées. Les agents estiment souvent qu'une personne racisée est associée à une classe sociale défavorisée, qui elle-même est jugée peu apte à soutenir les élèves dans les études longues, les enseignants mêlant alors critères sociaux et critères raciaux. On constate donc qu'on ne peut pas mettre en concurrence la question de la classe et celle de la race. Ces deux catégories d'interprétation sont complémentaires et l'intersection des deux, et des autres catégories comme le genre, permet de décrire des formes spécifiques de discrimination.
Vous pouvez avoir une critique qui est une critique qui serait plus de gauche, qui serait de dire si on règle la question de la classe, donc la question de la redistribution économique, ces problèmes-là vont disparaître. Mmh. Et là, c'est contestable parce qu'on voit très bien que quand on travaille, par exemple, sur les groupes favorisés économiquement, mais qui sont soumis à des formes de catégorisation raciale et d'assignation raciale, eh ben, il continue d'y avoir une expérience de discrimination dans ce registre-là. Donc, en fait, le fait d'avoir du capital, que ce soit du capital réel ou du capital social, enfin, ça peut venir parfois atténuer ou donner une autre forme, mais ça n'annule pas l'expérience de la discrimination raciale. De même que ça n'annule pas la question de la discrimination de genre. Être une femme bourgeoise ne vous fait pas complètement échapper au sexisme.
Mais si la question du racisme à l'école est encore peu étudiée par la recherche, on ne peut pas continuer à en faire scientifiquement l'économie pour comprendre les inégalités scolaires. Laura Foy, chercheuse en sciences de l'éducation, enquête sur les propos et les représentations des enseignants et des enseignantes dans sa thèse récompensée par le Défenseur des droits. Le mot « race » restant très tabou, les professeurs tendent à mobiliser en remplacement l'idée d'origine et de culture des élèves et de leur famille pour expliquer, par exemple, un climat scolaire délétère ou des moments de désordre. Mais elle observe bel et bien un processus d'altérisation et de racialisation qui trace un « eux » et un « nous ». Écoutons-la exposer les résultats de ses travaux.
Et donc oui, il n'y a pas d'idéologie raciale dans le racisme des enseignants. Ça ne s'appuie pas sur de l'idéologie, vraiment sur une adhésion en fait la doctrine de l'inégalité des races et tout, ça, pas du tout. Par contre, c'est vraiment une stratégie d'externalisation de la difficulté professionnelle. Et d'ailleurs, ça se voit parce que la saillance de la race, elle est variable dans les écoles et elle est beaucoup plus forte quand il y a une crise. Par exemple, s'il y a une embrouille avec un parent d'élève, s'il y a un événement violent dans l'école, s'il se passe quelque chose comme ça, tout d'un coup, la question de la race devient extrêmement saillante. Alors que quand tout est cool, que tout est apaisé, que ça se passe bien, que la question raciale est beaucoup moins saillante.
Ainsi, les interprétations racisantes permettent aux professeurs d'expliquer, par une cause externe à eux, une partie de leurs difficultés, et par là de se protéger de la remise en cause de tout un système qui les violente tant eux que les élèves. La racialisation se retrouve également dans la bouche des élèves, qui eux aussi peuvent adhérer à ce « nous » contre les autres. Mais le philosophe Aurélien Aramini y voit un retournement du stigmate, une réponse à un quotidien où eux et leur famille sont souvent réduits à la différence, à leur extériorité par rapport à la norme établie. Les élèves condamnent très généralement le racisme biologique. Mais Aurélien Aramini insiste lui aussi sur le racisme comme expérience sociale de polarisation conflictuelle. L'expérience du racisme est alors celle de rapports sociaux antagonistes, de rapports de force, d'identité protectrice et de rejet.
Ce qui conduit finalement à penser ce racisme de type interactionnel dans un rapport d'engendrement mutuel. La colère des uns en voyant au ressentiment des autres, dans une espèce de spirale où les élèves sont pris, et spirale qui s'accélère lorsqu'ils se retrouvent dans des situations socio-économiques où s'exacerbent des luttes de concurrence entre les élèves.
Face à des injustices et assignations ressenties, les groupes se constituent et s'organisent en opposition, à la fois par anticipation du rejet et pour rester dans des groupes où ils se sentent en sécurité. C'est parce que les rapports sociaux ordinaires ne sont pas aveugles à leur racisation que celle-ci se retrouve partout dans les discours d'élèves sur fond de destin social différencié.
C'est pas de l'anti-France, ni une ligne de défense. Les rêves brisés de mes parents m'ont rendu méfiant. Je veux qu'on me voie comme ambassadeur, pas comme un conquérant.
Ainsi, on fait le constat d'une contradiction entre une école antiraciste en valeurs et en droits et des rapports sociaux au sein de l'institution, malgré tout imprégnés par la notion de race. L'institution scolaire ne peut se dédouaner de ces rapports racialisants qui, par ailleurs, traversent tout le reste du monde social. Le déni servirait alors à ceux qui profitent de cet état de fait, ajoutant une violence supplémentaire à ceux qui subissent, souvent en silence, du racisme. Le sociologue Julien Garric appelle, notamment dans un article récent des Cahiers pédagogiques, à accepter l'idée d'une école qui provoquerait, je cite, « des paroles racistes que les élèves reçoivent avec violence ». Il se demande alors s'il ne faudrait pas mieux se confronter, par exemple, à la dissymétrie raciale de la relation entre élèves et professeurs, dont la très grande majorité sont non racisés.
Parce que pour eux, étant donné que je suis prof d'art appliqué et de culture artistique, je ne peux pas être comme eux. Du fait de ma culture, en fait. Et c'est quelque chose que j'essaye de déconstruire avec eux, parce que pour eux, la culture est colorée, et pour eux, la culture est blanche. Et j'essaye de leur dire que non.
Se pose alors la question de comment continuer à lutter contre le racisme vécu, subi et reproduit par les élèves dans le cadre scolaire, sans être à côté du problème, ni en reproduisant des formes de violence. Le premier défi est alors de montrer que parler de différence et de diversité est un construit social, politique et historique par rapport à une norme arbitraire. Il semble important de ne pas consacrer ces différences qu'il faudrait au mieux tolérer et au pire instrumentaliser pour créer un lien avec les élèves ou avec leur famille.
Bonjour, je suis la maman de Juliette.
Oui, Juliette, oui. Sadio.
Samira.
Ah bon, enchantée.
Mais bienvenue, hein, bienvenue.
Merci beaucoup.
Une petite bière? Un vin nature, saucisson.
Non, merci beaucoup, c'est sympa, je vais prendre un petit cola.
Ah oui, d'accord.
Et ben voilà, hop, une corne de gazelle.
Ah non, comme quoi.
À l'inverse, Aurélien Aramini montre que la posture strictement universaliste, qui serait aveugle aux identités et qui viserait à effacer les appartenances, est une autre impasse. Les élèves ne sont pas des êtres abstraits, désincarnés et sans histoire qu'on pourrait arracher à leur singularité. Écoutons-le évoquer la double exigence d'une pédagogie antiraciste au micro d'Être et Savoir.
C'est à la fois promouvoir un discours universel, c'est-à-dire qui permet à tous d'accéder à une forme d'autonomie intellectuelle, relationnelle, mais sans pour autant nier le particulier, mais au contraire en s'enrichissant de tous les particuliers. Et il reprend une belle formule d'Aimé Césaire, qui a deux manières finalement de se perdre, soit dans la ségrégation murée dans le particularisme, soit dans la dissolution dans un universel abstrait.
L'identitaire est un problème d'époque. Le communautarisme, le cancer des blocs.
Un autre volet de la pédagogie antiraciste se trouve dans la manière d'aborder les savoirs. S'interroger sur l'ethnocentrisme de nos programmes, ainsi que sur l'absence de représentation des personnes minorisées, peut être une source de renouvellement pédagogique qui s'inscrit pleinement dans la lutte contre le racisme. L'historien Romain Bertrand propose par exemple des récits symétriques qu'il dit à part égale.
En essayant aussi de raconter ce que ces sociétés ont dit d'elles-mêmes, c'est-à-dire d'aller solliciter leurs propres écrits, leurs propres récits, pour montrer que l'histoire ne s'écrivait pas à l'époque seulement en Europe, mais aussi bien aux confins de l'Asie du Sud-Est.
En classe, les professeurs aussi inscrivent cette lutte dans l'enseignement des savoirs. Écoutons Manel Benboubaker, professeur d'histoire-géographie.
C'est que dans les manuels scolaires, quand on montre les personnes non blanches, on les montre quasiment jamais en position d'experte. Notamment les historiens, historiennes ou les archéologues en sixième quand on fait ou l'égyptologie. Et en fait, moi, je me suis dit, mais en fait, il faut chercher. En fait, ils existent en Égypte. Pourquoi on fait? On pense toujours à l'égyptologie comme parce qu'on sait très bien, c'est parce que c'est l'imaginaire colonial que c'est toujours des archéologues blancs. Mais en fait, aujourd'hui, l'archéologie, elle se fait principalement par les Égyptiens et les Égyptiennes.
En conclusion, comme tout tabou, celui du racisme à l'école ne permet pas de penser clairement et distinctement ce que les élèves nomment racisme, ni ce qu'ils vivent, et encore moins d'aborder sereinement le sujet avec eux. S'emparer du sujet dans les interactions en classe, dans la banalité des biais de nos savoirs, et affronter la conflictualité des rapports, c'est aussi lutter contre le racisme, mais au quotidien, en acceptant qu'il peut s'immiscer partout, malgré nous, et de manière non intentionnelle. C'était Enquête d'école avec Adeline Hunscheringer et Sébastien Boudin à la réalisation et au mixage. Retrouvez toutes les références sur le site de Cadécole et rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode.